Livre 6, troisième partie. À Nîmes, j'allais voir les arènes. C'est un ouvrage beaucoup plus magnifique que le pont du Gard, et qui me fit beaucoup moins d'impression. Soit que mon admiration se fût épuisée sur le premier objet, soit que la situation de l'autre, au milieu d'une ville, fût moins propre à l'exciter. Ce vaste et superbe cirque est entouré de vilaines petites maisons, et d'autres maisons plus petites et plus vilaines encore en remplissent l'arène, de sorte que le tout ne produit qu'un effet disparate et confus, où le regret et l'indignation étouffent le plaisir et la surprise. J'ai vu depuis le cirque de Vérone, infiniment plus petit et moins beau que celui de Nîmes, mais entretenu et conservé avec toute la décence et la propreté possible, et qui, par cela même, me fit une impression plus forte et plus agréable. Les Français n'ont soin de rien et ne respectent aucun monument. Ils sont tout feu pour entreprendre et ne savent rien finir ni rien entretenir. J'étais changée à tel point, et ma sensualité mise en exercice s'était si bien éveillée, que je m'arrêtai un jour au pont de Lunel pour y faire bonne chère avec de la compagnie qui s'y trouva. Ce cabaret, le plus estimé de l'Europe, méritait alors de l'être. Ceux qui le tenaient avaient su tirer parti de son heureuse situation pour le tenir abondamment approvisionné et avec choix. C'était réellement une chose curieuse de trouver, dans une maison seule et isolée au milieu de la campagne, une table fournie en poissons de mer et d'eau douce, en gibier excellent, en vin fin, servi avec ses attentions et ses soins qu'on ne trouve que chez les grands et les riches. Et tout cela pour vos 35 sous. Mais le pont de Lunel ne resta pas longtemps sur ce pied, et à force d'user sa réputation, il la perdit enfin tout à fait. J'avais oublié, durant ma route, que j'étais malade. Je m'en souvins en arrivant à Montpellier. Mes vapeurs étaient bien guéries, mais tous mes autres maux me restaient, et quoique l'habitude m'y rendît moins sensible, c'en était assez pour se croire mort, à qui s'en trouverait attaqué tout d'un coup. En effet, ils étaient moins douloureux qu'effrayants, et faisaient plus souffrir l'esprit que le corps, dont ils semblaient annoncer la destruction. Cela faisait que, distrait par des passions vives, je ne songeais plus à mon état, mais comme il n'était pas imaginaire, je le sentais sitôt que j'étais de sang-froid. Je songeais donc sérieusement au conseil de Madame de Larnage et au but de mon voyage. J'allais consulter les praticiens les plus illustres, surtout Monsieur Fize, et pour surabondance de précautions, je me mis en pension chez un médecin. C'était un Irlandais appelé Fitzmaurice, qui tenait une table assez nombreuse d'étudiants en médecine. Et il y avait cela de commode pour un malade à s'y mettre, que M. Fitzmaurice se contentait d'une pension honnête pour la nourriture et ne prenait rien de ses pensionnaires pour ses soins comme médecin. Il se chargea de l'exécution des ordonnances de M. Fize et de veiller sur ma santé. Il s'acquitta fort bien de cet emploi quant au régime. On ne gagnait pas d'indigestion à cette pension-là, et quoique je ne sois pas fort sensible aux privations de cette espèce, les objets de comparaison étaient si proches que je ne pouvais m'empêcher de trouver quelquefois en moi-même que M. de Torignan était un meilleur pourvoyeur que M. Fitzmaurice. Cependant, comme on ne mourait pas de faim non plus, et que toute ma jeunesse était fort gaie, cette manière de vivre me fit du bien réellement, et m'empêcha de retomber dans mes langueurs. Je passais la matinée à prendre des drogues, surtout je ne sais quelles eaux, je crois les eaux de Valls, et à écrire à Madame de Larnage, car la correspondance allait son train, et Rousseau se chargeait de retirer les lettres de son ami Dudding. À midi, j'allais faire un tour à la Canourgue avec quelqu'un de nos jeunes commensaux, qui tous étaient de très bons enfants. On se rassemblait, on allait dîner. Après dîner, une importante affaire occupait la plupart d'entre nous jusqu'au soir. C'était d'aller hors de la ville jouer le goûter en deux ou trois parties de mail. Je ne jouais pas, je n'en avais ni la force ni l'adresse, mais je pariais. Et suivant, avec l'intérêt du pari, nos joueurs et leurs boules à travers les chemins rabouteux et pleins de pierres, je faisais un exercice agréable et salutaire qui me convenait tout à fait. On goûtait dans un cabaret hors de la ville. Je n'ai pas besoin de dire que ces goûters étaient gais. Mais j'ajouterais qu'ils étaient assez décents, quoique les filles du cabaret fussent jolies. Monsieur Fitzmaurice, grand joueur de mail, était notre président. Et je puis dire, malgré la mauvaise réputation des étudiants, que je trouvais plus de mœurs et d'honnêteté parmi toute cette jeunesse qu'il ne serait aisé d'en trouver dans le même nombre d'hommes faits. Ils étaient plus bruyants que crapuleux, plus gais que libertins. Et je me monte si aisément à un train de vie quand il est volontaire que je n'aurais pas mieux demandé que de voir durer celui-là toujours. Il y avait parmi ces étudiants plusieurs Irlandais, avec lesquels je tâchais d'apprendre quelques mots d'anglais, par précaution pour le bourg Saint-Andiol. Car le temps approchait de m'y rendre. Madame de Larnage m'empressait chaque ordinaire, et je me préparais à lui obéir. Il était clair que mes médecins, qui n'avaient rien compris à mon mal, me regardaient comme un malade imaginaire, et me traitaient sur ce pied avec leur skin, leurs os et leurs petits laits. Tout au contraire des théologiens, les médecins et les philosophes n'admettent pour vrai que ce qu'ils peuvent expliquer, et font de leur intelligence la mesure des possibles. Ces messieurs ne connaissaient rien à mon mal, donc je n'étais pas malade. Car comment supposer que des docteurs ne sussent pas tout? Je vis qu'ils ne cherchaient qu'à m'amuser et me faire manger mon argent. Et jugeant que leur substitut du bourg Saint-Andiol ferait cela tout aussi bien qu'eux, mais plus agréablement, je résolus de lui donner la préférence, et je quittai Montpellier dans cette sage intention. Je partis vers la fin de novembre, après 6 semaines ou 2 mois de séjour dans cette ville, où je laissai une douzaine de louis, sans aucun profit pour ma santé, ni pour mon instruction, si ce n'est un cours d'anatomie commencé sous M. Fitzmaurice, et que je fus obligé d'abandonner par l'horrible puanteur des cadavres qu'on disséquait, et qu'il me fut impossible de supporter. Mal à mon aise au-dedans de moi, sur la résolution que j'avais prise, j'y réfléchissais en m'avançant toujours vers le pont Saint-Esprit, qui était également la route du bourg Saint-Andiol et de Chambéry. Les souvenirs de maman et ses lettres, quoique moins fréquentes que celles de Madame de Larnage, réveillaient dans mon cœur des remords que j'avais étouffés durant ma première route. Ils devinrent si vifs au retour que, balançant l'amour du plaisir, ils me mirent en état d'écouter la raison seule. D'abord, dans le rôle d'aventurier que j'allais recommencer, je pouvais être moins heureux que la première fois. Il ne fallait dans tout le bourg Saint-Andiol qu'une seule personne qui eût été en Angleterre, qui connut les Anglais ou qui sut leur langue, pour me démasquer. La famille de Madame de Larnage pouvait se prendre de mauvaise humeur contre moi et me traiter peu honnêtement. Sa fille, à laquelle malgré moi je pensais plus qu'il n'eût fallu, m'inquiétait encore. Je tremblais d'en devenir amoureux, et cette peur faisait déjà la moitié de l'ouvrage. Allais-je donc, pour prix des bontés de la mère, chercher à corrompre sa fille, à lier le plus détestable commerce, à mettre la dissension, le déshonneur, le scandale et l'enfer dans sa maison? Cette idée me fit horreur. Je pris bien la ferme résolution de me combattre et de me vaincre, si ce malheureux penchant venait à se déclarer. Mais pourquoi m'exposer à ce combat? Quel misérable état de vivre avec la mère, dont je serais rassasié, et de brûler pour la fille sans oser lui montrer mon cœur. Quelle nécessité d'aller chercher cet état, et m'exposer au malheur, aux affronts, aux remords, pour des plaisirs dont j'avais d'avance épuisé le plus grand charme. Car il est certain que ma fantaisie avait perdu sa première vivacité. Le goût du plaisir y était encore, mais la passion n'y était plus. À cela se mêlaient des réflexions relatives à ma situation, à mes devoirs, à cette maman si bonne, si généreuse, qui, déjà chargée de dettes, l'était encore de mes folles dépenses, qui s'épuisait pour moi et que je trompais si indignement. Ce reproche devint si vif qu'il l'emporta à la fin. En approchant du Saint-Esprit, je pris la résolution de brûler l'étape du bourg Saint-Andiol et de passer tout droit. Je l'exécutai courageusement, avec quelques soupirs, je l'avoue, mais aussi avec cette satisfaction intérieure que je goûtai pour la première fois de ma vie de me dire « Je mérite ma propre estime. Je sais préférer mon devoir à mon plaisir. » Voilà la première obligation véritable que j'ai à l'étude. C'était elle qui m'avait appris à réfléchir, à comparer. Après les principes si purs que j'avais adoptés, il y avait peu de temps, après les règles de sagesse et de vertu que je m'étais faites et que je m'étais sentie si fière de suivre, la honte d'être si peu conséquent à moi-même, de démentir si tôt et si haut mes propres maximes, l'emporta sur la volupté. L'orgueil eut peut-être autant de part à ma résolution que la vertu, mais si cet orgueil n'est pas la vertu même, il a des effets si semblables qu'il est pardonnable de s'y tromper. L'un des avantages des bonnes actions est d'élever l'âme et de la disposer à en faire de meilleures. Car telle est la faiblesse humaine qu'on doit mettre au nombre des bonnes actions l'abstinence du mal qu'on est tenté de commettre. Sitôt que j'eus pris ma résolution, je devins un autre homme. Ou plutôt, je redevins ce que j'étais auparavant, et que ce moment d'ivresse avait fait disparaître. Plein de bons sentiments et de bonnes dispositions, je continuai ma route dans la bonne intention d'expier ma faute, ne pensant qu'à régler désormais ma conduite sur les lois de la vertu, à me consacrer sans réserve au service de la meilleure des mères, à lui vouer autant de fidélité que j'avais d'attachement pour elle, et à n'écouter plus d'autre amour que celui de mes devoirs. Hélas, la sincérité de mon retour au bien semblait me promettre une autre destinée, mais la mienne était écrite et déjà commencée. Et quand mon cœur, plein d'amour pour les choses bonnes et honnêtes, ne voyait plus qu'innocence et bonheur dans la vie, je touchais au moment funeste qui devait traîner à sa suite la longue chaîne de mes malheurs. L'empressement d'arriver me fit faire plus de diligence que je n'avais compté. Je lui avais annoncé de Valence le jour et l'heure de mon arrivée. Ayant gagné une demi-journée sur mon calcul, je restai autant de temps à Chaparillan afin d'arriver juste au moment que j'avais marqué. Je voulais goûter dans tout son charme le plaisir de la revoir. J'aimais mieux le différer un peu pour y joindre celui d'être attendu. Cette précaution m'avait toujours réussi. J'avais vu toujours marquer mon arrivée par une espèce de petite fête. Je n'en attendais pas moins cette fois. Et ces empressements qui m'étaient si sensibles valaient bien la peine d'être ménagés. J'arrivais donc exactement à l'heure. De tout loin, je regardais si je ne la verrais pas sur le chemin. Le cœur me battait de plus en plus à mesure que j'approchais. J'arrive, essoufflé, car j'avais quitté ma voiture en ville. Je ne vois personne dans la cour, sur la porte, à la fenêtre. Je commence à me troubler, je redoute quelque accident. J'entre. Tout est tranquille. Des ouvriers goûtaient dans la cuisine. Du reste, aucun après. La servante parut surprise de me voir. Elle ignorait que je dusse arriver. Je monte. Je la vois enfin, cette chère maman, si tendrement, si vivement, si purement aimée. J'accours, je m'élance à ses pieds. « Ah, te voilà, petit !» me dit-elle en m'embrassant. « As-tu fait bon voyage ? Comment te portes-tu ? » Cet accueil m'interdit un peu. Je lui demandai si elle n'avait pas reçu ma lettre. Elle me dit que oui. « J'aurais cru que non, lui dis-je. » Et l'éclaircissement finit là. Un jeune homme était avec elle. Je le connaissais, pour l'avoir vu déjà dans la maison avant mon départ. Mais cette fois, il y paraissait établi. Il l'était. Bref, je trouvais ma place prise. Ce jeune homme était du pays de Vaud. Son père, appelé Winzenried, était concierge ou soi-disant capitaine du château de Chillon. Le fils de monsieur le capitaine était garçon perruquier et courait le monde en cette qualité quand il vint se présenter à madame de Varens, qui le reçut bien, comme elle faisait, pour tous les passants, et surtout ceux de son pays. C'était un grand fade blondin, assez bien fait, le visage plat, l'esprit de même, parlant comme le beau Léandre, mêlant tous les tons, tous les goûts de son état, avec la longue histoire de ses bonnes fortunes, ne nommant que la moitié des marquises avec lesquelles il avait couché, et prétendant n'avoir point coiffé de jolies femmes dont il n'eût aussi coiffé les maris. Vain, sot, ignorant, insolent. Au demeurant, le meilleur fils du monde. Tel fut le substitut qui me fut donné pendant mon absence et l'associé qui me fut offert après mon retour. Oh, si les âmes, dégagées de leurs terrestres entraves, voient encore du sein de l'éternelle lumière ce qui se passe chez les mortels, pardonnez. Ombre chère et respectable, si je ne fais pas plus de grâce à vos fautes qu'aux miennes, si je dévoile également les unes et les autres aux yeux des lecteurs, je dois, je veux être vrai pour vous comme pour moi-même. Vous y perdrez toujours beaucoup moins que moi. Combien votre aimable et doux caractère, votre inépuisable bonté de cœur, votre franchise et toutes vos excellentes vertus ne rachète-t-elle pas de faiblesse, si l'on peut appeler ainsi les torts de votre seule raison? Vous eûtes des erreurs, et non pas des vices. Votre conduite fut répréhensible, mais votre cœur fut toujours pur. Le nouveau venu s'était montré zélé, diligent, exact pour toutes ses petites commissions, qui étaient toujours en grand nombre. Il s'était fait le piqueur de ses ouvriers. Aussi bruyant que je l'étais peu, il se faisait voir et surtout entendre à la fois à la charrue, au foin, au bois, à l'écurie, à la basse-cour. Il n'y avait que le jardin qu'il négligeait, parce que c'était un travail trop paisible et qui ne faisait point de bruit. Son grand plaisir était de charger et charrier, de scier ou de fendre du bois. On le voyait toujours la hache ou la pioche à la main. On l'entendait courir, cogner, crier à pleine tête. Je ne sais de combien d'hommes il faisait le travail, mais il faisait toujours le bruit de 10 à 12. Tout ce tintamarre en imposa à ma pauvre maman. Elle crut ce jeune homme un trésor pour ses affaires. Voulant se l'attacher, elle employa pour cela tous les moyens qu'elle y crut propres, et n'oublia pas celui sur lequel elle comptait le plus. On a dû connaître mon cœur, ses sentiments les plus constants, les plus vrais, ceux surtout qui me ramenaient en ce moment auprès d'elle. Quel prompt et plein bouleversement dans tout mon être! Qu'on se mette à ma place pour en juger! En un moment, je vis évanouir pour jamais tout l'avenir de félicité que je m'étais peint. Toutes les douces idées que je caressais si affectueusement disparurent. Et moi, qui depuis mon enfance ne savais voir mon existence qu'avec la sienne, je me vis seule pour la première fois. Ce moment fut affreux. ceux qui le suivirent furent toujours sombres. J'étais jeune encore, mais ce doux sentiment de jouissance et d'espérance qui vivifie la jeunesse me quitta pour jamais. Dès lors, l'être sensible fut mort à demi. Je ne vis plus devant moi que les tristes restes d'une vie insipide, et si quelquefois encore une image de bonheur effleura mes désirs, ce bonheur n'était plus celui qui m'était propre. Je sentais qu'en l'obtenant, je ne serais pas vraiment heureux. J'étais si bête, et ma confiance était si pleine, que malgré le ton familier du nouveau venu, que je regardais comme un effet de cette facilité de l'humeur de maman, qui rapprochait tout le monde d'elle, je ne me serais pas avisée d'en soupçonner la véritable cause si elle ne me l'eût dite elle-même. Mais elle se pressa de me faire cet aveu avec une franchise capable d'ajouter à ma rage si mon cœur eût pu se tourner de ce côté-là. Trouvant quant à elle la chose toute simple, me reprochant ma négligence dans la maison et m'alléguant mes absences, comme si elle eût été d'un tempérament fort pressé d'en remplir les vides. « Ah, maman, lui dis-je, le cœur serré de douleur, qu'osez-vous m'apprendre? Quel prix d'un attachement pareil au mien! Ne m'avez-vous tant de fois conservé la vie que pour m'ôter tout ce qui me la rendait cher? J'en mourrai, mais vous me regretterez. » Elle me répondit, d'un ton tranquille à me rendre fou, que j'étais un enfant, qu'on ne mourrait point de ces choses-là, que je ne perdrais rien, que nous n'en serions pas moins bons amis, pas moins intimes dans tous les sens, que son tendre attachement pour moi ne pouvait ni diminuer ni finir qu'avec elle. Elle me fit entendre en un mot que tous mes droits demeuraient les mêmes, et qu'en les partageant avec un autre, je n'en étais pas privé pour cela. Jamais la pureté, la vérité, la force de mes sentiments pour elle, jamais la sincérité, l'honnêteté de mon âme ne se firent mieux sentir à moi que dans ce moment. Je me précipitai à ses pieds, j'embrassai ses genoux en versant des torrents de larmes. « Non, maman, lui dis-je avec transport, je vous aime trop pour vous avilir. Votre possession m'est trop chère pour la partager. Les regrets qui l'accompagnèrent, quand je l'acquis, se sont accrus avec mon amour. Non, je ne la puis conserver au même prix. Vous aurez toujours mes adorations, soyez-en toujours digne. Il m'est plus nécessaire encore de vous honorer que de vous posséder. C'est à vous, ô maman, que je vous cède. C'est à l'union de nos cœurs que je sacrifie tous mes plaisirs. Puissais-je périr mille fois avant d'en goûter qui dégrade ce que j'aime. » Je tins cette résolution avec une constance digne, j'ose le dire, du sentiment qui me l'avait fait former. Dès ce moment, je ne vis plus cette maman si chérie que des yeux d'un véritable fils. Et il est à noter que, bien que ma résolution n'eût point son approbation secrète, comme je m'en suis trop aperçu, elle n'employa jamais pour m'y faire renoncer ni propos insinuants, ni caresses, ni aucune de ces adroites agaceries dont les femmes savent user sans se commettre et qui manquent rarement de leur réussir. Réduit à me chercher un sort indépendant d'elle, et n'en pouvant même imaginer, je passais bientôt à l'autre extrémité et je cherchais tout en elle. Je l'y cherchais si parfaitement que je parvins à m'oublier moi-même. L'ardent désir de la voir heureuse, à quelque prix que ce fût, absorbait toutes mes affections. Elle avait beau séparer son bonheur du mien, je le voyais mien, en dépit d'elle. Ainsi commencèrent à germer avec mes malheurs les vertus dont la semence était au fond de mon âme, que l'étude avait cultivée, et qui n'attendait pour éclore que le ferment de l'adversité. Le premier fruit de cette disposition si désintéressée fut d'écarter de mon cœur tout sentiment de haine et d'envie contre celui qui m'avait supplanté. Je voulus, au contraire, et je voulus sincèrement m'attacher à ce jeune homme, le former, travailler à son éducation, lui faire sentir son bonheur, le rendre digne s'il était possible, et faire en un mot pour lui tout ce qu'Annet avait fait pour moi dans une occasion pareille. Mais la parité manquait entre les personnes. Avec plus de douceur et de lumière, je n'avais pas le sang-froid et la fermeté d'Annet, ni cette force de caractère qui en imposait et dont j'aurais eu besoin pour réussir. Je trouvais encore moins dans le jeune homme les qualités qu'Annet avait trouvées en moi. La docilité, l'attachement, la reconnaissance, surtout le sentiment du besoin que j'avais de ses soins et l'ardent désir de les rendre utiles. Tout cela manquait ici. Celui que je voulais former ne voyait en moi qu'un pédant importun qui n'avait que du babil. Au contraire, il s'admirait lui-même comme un homme important dans la maison. Et, mesurant les services qu'il y croyait rendre sur le bruit qu'il y faisait, il regardait ses haches et ses pioches comme infiniment plus utiles que tous mes bouquins. À quelque égard, il n'avait pas tort, mais il partait de là pour se donner des airs, à faire mourir de rire. Il tranchait avec les paysans du gentilhomme campagnard. Bientôt, il en fit autant avec moi, et enfin, avec maman elle-même. Son nom de Vincent Reid ne lui paraissait pas assez noble. Il le quitta pour celui de Monsieur de Courtille. Et c'est sous ce dernier nom qu'il a été connu depuis à Chambéry et en Maurienne, où il s'est marié. Enfin, tant fit l'illustre personnage qu'il fut tout dans la maison, et moi, rien. Comme, lorsque j'avais le malheur de lui déplaire, c'était maman et non pas moi qu'il grondait, la crainte de l'exposer à ses brutalités me rendait docile à tout ce qu'il désirait. Et chaque fois qu'il fendait du bois, emploi qu'il remplissait avec une fierté sans égale, il fallait que je fusse là, spectateur oisif et tranquille admirateur de sa prouesse. Ce garçon n'était pourtant pas absolument d'un mauvais naturel. Il aimait maman parce qu'il était impossible de ne la pas aimer. Il n'avait même pas pour moi de l'aversion. Et quand les intervalles de ses fougues permettaient de lui parler, il nous écoutait quelquefois assez docilement, convenant franchement qu'il n'était qu'un sot. Après quoi, il n'en faisait pas moins de nouvelles sottises. Il avait d'ailleurs une intelligence si bornée et des goûts si bas qu'il était difficile de lui parler raison et presque impossible de se plaire avec lui. À la possession d'une femme pleine de charme, il ajouta le ragoût d'une femme de chambre, vieille, rousse et dentée, dont maman avait la patience d'endurer le dégoûtant service, quoiqu'elle lui fît mal au cœur. Je m'aperçus de ce nouveau manège et j'en fus outré d'indignation. Mais je m'aperçus d'une autre chose qui m'affecta bien plus vivement encore et qui me jeta dans un plus profond découragement que tout ce qui s'était passé jusqu'alors. Ce fut le refroidissement de maman envers moi. La privation que je m'étais imposée et qu'elle avait fait semblant d'approuver est une de ces choses que les femmes ne pardonnent point, quelque mine qu'elles fassent, moins par la privation qui en résulte pour elles-mêmes que par l'indifférence qu'elles y voient pour leur possession. Prenez la femme la plus sensée, la plus philosophe, la moins attachée à ses sens. Le crime le plus irrémissible que l'homme, dont au reste elle se soucie le moins, puisse commettre envers elle, et d'en pouvoir jouir et de n'en rien faire. Il faut bien que ceci soit sans exception, puisqu'une sympathie si naturelle et si forte fut altérée en elle par une abstinence qui n'avait que des motifs de vertu, d'attachement et d'estime. Dès lors, je cessais de trouver en elle cette intimité des cœurs qui fut toujours la plus douce jouissance du mien. Elle ne s'épanchait plus avec moi que quand elle avait à se plaindre du nouveau venu. Quand ils étaient bien ensemble, j'entrais peu dans ses confidences. Enfin, elle prenait peu à peu une manière d'être dont je ne faisais plus partie. Ma présence lui faisait plaisir encore, mais elle ne lui faisait plus besoin. Et j'aurais passé des jours entiers sans la voir, qu'elle ne s'en serait pas aperçue. Insensiblement, je me sentis isolée et seule dans cette même maison, dont auparavant j'étais l'âme, et où je vivais, pour ainsi dire, à double. Je m'accoutumais peu à peu à me séparer de tout ce qui s'y faisait, de ceux même qui l'habitaient. Et pour m'épargner de continuels déchirements, je m'enfermais avec mes livres, ou bien j'allais soupirer et pleurer à mon aise au milieu des bois. Cette vie me devint bientôt tout à fait insupportable. Je sentis que la présence personnelle et l'éloignement de cœur d'une femme qui m'était si chère irritaient ma douleur, et qu'en cessant de la voir, je m'en sentirais moins cruellement séparée. Je formai le projet de quitter sa maison, je le lui dis. Et, loin de s'y opposer, elle le favorisa. Elle avait à Grenoble une amie appelée Madame Desbins, dont le mari était ami de Monsieur de Mably, grand prévôt à Lyon. Monsieur Desbins me proposa l'éducation des enfants de Monsieur de Mably. J'acceptai, et je partis pour Lyon, sans laisser, ni presque sentir, le moindre regret d'une séparation, dont auparavant la seule idée nous eût donné les angoisses de la mort. J'avais à peu près les connaissances nécessaires pour un précepteur, et j'en croyais avoir le talent. Durant un an que je passais chez Monsieur de Mably, j'eus le temps de me désabuser. La douceur de mon naturel m'eût rendu très propre à ce métier, si l'emportement en y eût mêlé ses orages. Tant que tout allait bien, et que je voyais réussir mes soins et mes peines, qu'alors je n'épargnais point, j'étais un ange. J'étais un diable quand les choses allaient de travers. Quand mes élèves ne m'entendaient pas, j'extravaguais, et quand ils marquaient de la méchanceté, je les aurais tués. Ce n'était pas le moyen de les rendre savants et sages. J'en avais deux. Ils étaient d'humeur très différente. L'un, de 8 à 9 ans, appelé Sainte-Marie, était une jolie figure, l'esprit assez ouvert, assez vif, étourdi, badin, malin, mais d'une malignité gaie. Le cadet, appelé Condillac, paraissait presque stupide, musard, têtu comme une mule, et ne pouvait rien apprendre. On peut juger qu'entre ces deux sujets, je n'avais pas besogne faite. Avec de la patience et du sang-froid, peut-être aurais-je pu réussir. Mais, faute de l'une et de l'autre, je ne fis rien qui vaille, et mes élèves tournaient très mal. Je ne manquais pas d'assiduité, mais je manquais d'égalité, surtout de prudence. Je ne savais employer auprès d'eux que 3 instruments, toujours inutiles et souvent pernicieux auprès des enfants. Le sentiment, le raisonnement, la colère. Tantôt je m'attendrissais avec Sainte-Marie jusqu'à pleurer, je voulais l'attendrir lui-même, comme si l'enfant était susceptible d'une véritable émotion de cœur. Tantôt je m'épuisais à lui parler raison, comme s'il avait pu m'entendre. Et comme il me faisait quelquefois des arguments très subtils, je le prenais tout de bon pour raisonnable, parce qu'il était raisonneur. Le petit Condillac était encore plus embarrassant, parce que n'entendant rien, ne répondant rien, ne s'émouvant de rien, et d'une opiniâtrité à toute épreuve, il ne triomphait jamais mieux de moi que quand il m'avait mis en fureur. Alors, c'était lui qui était le sage, et c'était moi qui étais l'enfant. Je voyais toutes mes fautes, je les sentais. J'étudiais l'esprit de mes élèves, je les pénétrais très bien, et je ne crois pas que jamais une seule fois j'ai été la dupe de leur ruse. Mais que me servait de voir le mal sans savoir appliquer le remède? En pénétrant tout, je n'empêchais rien, je ne réussissais à rien, et tout ce que je faisais était précisément ce qu'il ne fallait pas faire. Je ne réussissais guère mieux pour moi que pour mes élèves. J'avais été recommandée par Madame Desbins à Madame de Mably. Elle l'avait prié de former mes manières et de me donner le ton du monde. Elle y prit quelques soins et voulut que j'apprisse à faire les honneurs de sa maison. Mais je m'y pris si gauchement. J'étais si honteux, si sot, qu'elle se rebuta et me planta là. Cela ne m'empêcha pas de devenir, selon ma coutume, amoureux d'elle. J'en fis assez pour qu'elle s'en aperçût, mais je n'osais jamais me déclarer. Elle ne se trouva pas d'humeur à faire les avances, et j'en fus pour mes lorgneries et mes soupirs, dont même je m'ennuyais bientôt, voyant qu'ils n'aboutissaient à rien. J'avais tout à fait perdu chez maman le goût des petites friponneries, parce que, tout étant à moi, je n'avais rien à voler. D'ailleurs, les principes élevés que je m'étais faits devaient me rendre désormais bien supérieur à de telles bassesses. Et il est certain que depuis lors, je l'ai d'ordinaire été. Mais c'est moins pour avoir appris à vaincre mes tentations que pour en avoir coupé la racine. Et j'aurais grand peur de voler, comme dans mon enfance, si j'étais sujet au même désir. J'eus la preuve de cela chez M. de Mably. Environné de petites choses volables que je ne regardais même pas, je m'avisai de convoiter un certain petit vin blanc d'Arbois, très joli, dont quelques verres que par-ci, par-là, je buvais à table, m'avaient fort affriandé. Il était un peu louche, je croyais savoir bien coller le vin. Je m'en vantais. On me confia celui-là, je le collais et le gâtais. Mais aux yeux seulement, il resta toujours agréable à boire, et l'occasion fit que je m'en accommodais de temps en temps, de quelques bouteilles, pour boire à mon aise en mon petit particulier. Malheureusement, je n'ai jamais pu boire sans manger. Comment faire pour avoir du pain? Il m'était impossible d'en mettre en réserve. En faire acheter par les laquais, c'était me déceler, et presque insulter le maître de la maison. En acheter moi-même, je n'osais jamais. Un beau monsieur, l'épée au côté, aller chez un boulanger acheter un morceau de pain, cela se pouvait-il? Enfin, je me rappelais le pis-aller d'une grande princesse à qui l'on disait que les paysans n'avaient pas de pain, et qui répondit « qu'ils mangent de la brioche ». J'achetais de la brioche. Encore que de façons pour en venir là. Sorti seul à ce dessein, je parcourais quelquefois toute la ville et passais devant 30 pâtissiers avant d'entrer chez aucun. Il fallait qu'il n'y eût qu'une seule personne dans la boutique et que sa physionomie m'attira beaucoup pour que j'osasse franchir le pas. Mais aussi quand j'avais une fois ma chère petite brioche et que, bien enfermée dans ma chambre, j'allais trouver ma bouteille au fond d'une armoire, quelle bonne petite buvette je faisais là tout seul, en lisant quelques pages de roman. Car lire en mangeant fut toujours ma fantaisie, au défaut d'un tête-à-tête. C'est le supplément de la société qui me manque. Je dévore alternativement une page et un morceau. C'est comme si mon livre dînait avec moi. Je n'ai jamais été dissolu ni crapuleux, et ne me suis enivré de ma vie. Ainsi, mes petits vols n'étaient pas fort indiscrets. Cependant, ils se découvrirent, les bouteilles me décelèrent. On ne m'en fit pas semblant, mais je n'eus plus la direction de la cave. En tout cela, M. de Mably se conduisit honnêtement et prudemment. C'était un très galant homme, qui, sous un air aussi dur que son emploi, avait une véritable douceur de caractère et une rare bonté du cœur. Il était judicieux, équitable, et ce qu'on n'attendait pas d'un officier de maréchaussée, même très humain. En sentant son indulgence, je lui en devins plus attaché, et cela me fit prolonger mon séjour dans sa maison plus que je n'aurais fait sans cela. Mais enfin, dégoûté d'un métier auquel je n'étais pas propre, et d'une situation très gênante, qui n'avait rien d'agréable pour moi, après un an d'essai, durant lequel je n'épargnais point mes soins, je me déterminai à quitter mes disciples, bien convaincu que je ne parviendrais jamais à les bien élever. M. de Mably lui-même voyait cela tout aussi bien que moi. Cependant, je crois qu'il n'eût jamais pris sur lui de me renvoyer si je ne lui en eusse épargné la peine. Et cet excès de condescendance en pareil cas n'est assurément pas ce que j'approuve. Ce qui me rendait mon état plus insupportable était la comparaison continuelle que j'en faisais avec celui que j'avais quitté. C'était le souvenir de mes chères Charmettes, de mon jardin, de mes arbres, de ma fontaine, de mon verger, et surtout de celle pour qui j'étais née, qui donnait de l'âme à tout cela. En repensant à elle, à nos plaisirs, à notre innocente vie, il me prenait des serrements de cœur, des étouffements qui m'ôtaient le courage de rien faire. 100 fois, j'ai été violemment tentée de partir à l'instant et à pied pour retourner auprès d'elle. Pourvu que je la revisse encore une fois, j'aurais été content de mourir à l'instant même. Enfin, je ne pus résister à ces souvenirs si tendres qui me rappelaient auprès d'elle à quelque prix que ce fût. Je me disais que je n'avais pas été assez patient, assez complaisant, assez caressant, que je pouvais encore vivre heureux dans une amitié très douce, en y mettant du mien plus que je n'avais fait. Je forme les plus beaux projets du monde, je brûle de les exécuter. Je quitte tout, je renonce à tout, je pars, je vole, j'arrive dans tous les mêmes transports de ma première jeunesse, et je me retrouve à ses pieds. Ah, j'y serais mort de joie si j'avais retrouvé dans son accueil, dans ses yeux, dans ses caresses, dans son cœur enfin, le quart de ce que j'y retrouvais autrefois et que j'y reportais encore. Affreuse illusion des choses humaines! Elle me reçut toujours avec son excellent cœur qui ne pouvait mourir qu'avec elle, mais je venais rechercher le passé qui n'était plus et qui ne pouvait renaître. À peine eus-je resté une demi-heure avec elle que je sentis mon ancien bonheur mort pour toujours. Je me retrouvais dans la même situation désolante que j'avais été forcée de fuir, et cela sans que je pusse dire qu'il y eût de la faute de personne, car au fond, Courtille n'était pas mauvais, et parut me revoir avec plus de plaisir que de chagrin. Mais comment me souffrir surnuméraire près de celle pour qui j'avais été tout et qui ne pouvait cesser d'être tout pour moi? Comment vivre étranger dans la maison dont j'étais l'enfant? L'aspect des objets témoins de mon bonheur passé me rendait la comparaison plus cruelle. J'aurais moins souffert dans une autre habitation, mais me voir rappeler incessamment tant de doux souvenirs, c'était irriter le sentiment de mes pertes. Consumé de vains regrets, livré à la plus noire mélancolie, je repris le train de rester seul hors les heures des repas. Enfermé dans mes livres, j'y cherchais des distractions utiles. Et sentant le péril imminent que j'avais tant craint autrefois, je me tourmentais de rechef à chercher en moi-même les moyens d'y pourvoir quand maman n'aurait plus de ressources. J'avais mis les choses dans sa maison sur le pied d'aller sans empirer. Mais depuis moi, tout était changé. Son économe était un dissipateur. Il voulait briller, bon cheval, bon équipage. Il aimait à s'étaler noblement aux yeux des voisins. Il faisait des entreprises continuelles en choses où il n'entendait rien. La pension se mangeait d'avance. Les quartiers en étaient engagés. Les loyers étaient arriérés et les dettes allaient leur train. Je prévoyais que cette pension ne tarderait pas d'être saisie, peut-être supprimée. Enfin, je n'envisageais que ruines et désastres. Et le moment m'en semblait si proche. Et le moment m'en semblait si proche que j'en sentais d'avance toutes les horreurs. Mon cher cabinet était ma seule distraction. À force d'y chercher des remèdes contre le trouble de mon âme, je m'avisais d'y en chercher contre les maux que je prévoyais. Et revenant à mes anciennes idées, me voilà bâtissant de nouveaux châteaux en Espagne pour tirer cette pauvre maman des extrémités cruelles où je la voyais prête à tomber. Je ne me sentais pas assez savant et ne me croyais pas assez d'esprit pour briller dans la République des Lettres et faire une fortune par cette voie. Une nouvelle idée qui se présenta m'inspira la confiance que la médiocrité de mes talents ne pouvait me donner. Je n'avais pas abandonné la musique en cessant de l'enseigner. Au contraire, j'en avais assez étudié la théorie pour pouvoir me regarder au moins comme savant dans cette partie. En réfléchissant à la peine que j'avais eue d'apprendre à déchiffrer les notes et à celle que j'avais encore de chanter à livre ouvert, je vins à penser que cette difficulté pouvait bien venir de la chose autant que de moi, sachant surtout qu'en général, apprendre la musique n'était pour personne chose aisée. En examinant la constitution des signes, je les trouvais souvent fort mal inventés. Il y avait longtemps que j'avais pensé à noter l'échelle par chiffre pour éviter d'avoir toujours à tracer des lignes et portées lorsqu'il fallait noter le moindre petit air. J'avais été arrêté par les difficultés des octaves et par celles de la mesure et des valeurs. Cette ancienne idée me revint dans l'esprit, et je vis, en y repensant, que ces difficultés n'étaient pas insurmontables. J'y rêvais avec succès, et je parvins à noter quelques musiques que ce fut par mes chiffres avec la plus grande exactitude, et je puis dire avec la plus grande simplicité. Dès ce moment, je crus ma fortune faite, et dans l'ardeur de la partager avec celle à qui je devais tout, je ne songeais qu'à partir pour Paris, ne doutant pas qu'en présentant mon projet à l'Académie, je ne fisse une révolution. J'avais rapporté de Lyon quelque argent, je vendis mes livres, en 15 jours ma résolution fut prise et exécutée. Enfin, plein des idées magnifiques qui me l'avaient inspirée, et toujours le même dans tous les temps, je partis de Savoie avec mon système de musique, comme autrefois j'étais parti de Turin avec ma fontaine de Héron. Telles ont été les erreurs et les fautes de ma jeunesse. J'en ai narré l'histoire avec une fidélité dont mon cœur est content. Et si dans la suite j'honorais mon âge mûr de quelques vertus, je les aurais dites avec la même franchise, et c'était mon dessein. Mais il faut m'arrêter ici. Le temps peut lever bien des voiles. Et si ma mémoire parvient à la postérité, peut-être un jour elle apprendra ce que j'avais à dire. Alors, on saura pourquoi je me tais.